France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
L'étrangère, c'était le titre de l'article en 1970 dans la Quinzaine littéraire par lequel Roland Barthes saluait le premier livre en français de Julia Kristeva. Julia Kristeva, qui, quelques années plus tard, écrivait ceci dans « Étranger à nous-mêmes ». Étranger, rage étranglée au fond de ma gorge, ange noir troublant la transparence, trace opaque, insondable. Figure de la haine et de l'autre, l'étranger n'est ni la victime romantique de notre paresse familiale, ni l'intrus responsable de tous les maux de la cité. Ni la révélation en marche, ni l'adversaire immédiat à éliminer pour pacifier le groupe. Étrangement, l'étranger nous habite. Il est la force cachée de notre identité, l'espace qui ruine notre demeure, le temps où s'abîment l'entente et la sympathie. De le reconnaître en nous, nous nous épargnons de le détester en lui-même. Peut-être un peu du genre de celle qu'aimait Aragon petit enfant, l'étrangère Julia Kristeva, en 1988, interrogée par Eliane Contini, présentait aux auditeurs de France Culture « Étranger à nous-mêmes » qui venait de paraître chez Fayard. Mise au point avec Julia Kristeva, une émission diffusée la première fois le 30 décembre 1988 sur France Culture.
Julia Kristeva, vous êtes d'origine bulgare, vous êtes en France depuis une vingtaine d'années et vous avez donc publié ce livre après une série de livres que vous avez écrits, peut-être c'est votre 13e je crois.
Il semble, oui, je n'ai pas fait le compte mais il paraît. Oui.
Vous êtes à la fois, on peut dire je crois, linguiste et psychanalyste et ce livre donc « Étranger à nous-mêmes » est une réflexion sur l'étrangeté, bien sûr ça vient, ou sur l'étranger, l'étrangeté on y reviendra, ça vient à point nommé avec tous les problèmes qui nous préoccupent actuellement. Bien sûr, il y a votre subjectivité qui apparaît à travers les pages de ce livre. Il y a votre propre vécu, votre propre expérience. Mais il y a aussi la mise en évidence d'un certain nombre de problèmes, tous les problèmes économiques, politiques, juridiques, et puis aussi le problème moral. Car, dites-vous, on ne peut pas résoudre les problèmes politiques et juridiques sans s'intéresser au problème moral. Et ce problème moral, c'est en fin de compte essentiellement se poser la question « Comment accepte-t-on l'autre ?» Alors, pour faire cette recherche, vous vous êtes intéressé à tout ce qui est, enfin, en tout cas, beaucoup de choses qui ont été écrites, aussi bien des livres, comme par exemple L'étranger de Camus, que les textes qui nous viennent de loin, comme des textes grecs, des textes juifs ou des textes chrétiens. Puis, bien sûr, vous parlez aussi de ce qui s'est passé à l'époque des Lumières. Mais ce que j'aimerais, pour les 13 minutes que nous avons à passer ensemble, c'est qu'on voit un petit peu ce qui s'est passé précisément au niveau des Grecs, des Juifs et des premiers chrétiens. Parce qu'effectivement, ces figures historiques, je crois qu'elles nous parlent. Alors, on peut peut-être commencer par les Grecs, qui bien sûr avaient leurs métèques et leurs barbares, mais enfin vous vous citez Eschyle et puis le problème des Danaïdes.
Oui, j'étais très fascinée par le fait que la première image que notre civilisation possède sur les étrangers, c'est une image d'étrangère, de femme. Et il s'agit en effet, comme vous venez de le dire, des Danaïdes qui sont présentes dans un fragment, parce qu'il n'y a qu'un fragment de cette pièce qui nous est restée d'Eschyle, qui s'appelle « Les suppliantes ». Et les Danaïdes sont des personnages tout à fait intéressants, d'abord parce que ce sont des femmes et des étrangères, et ensuite parce qu'elles sont de nature double. Ce sont des femmes qui, du fait qu'elles appartiennent à Héra et au culte d'Héra, sont officiantes du foyer, donc ce sont des prêtresses ou des servantes de la famille.
D'ailleurs, l'étranger supplie, on le dit dans notre...
Exactement, oui. Elles arrivent en fait en Grèce après avoir vécu en Égypte, car elles descendent de Io, la vache sacrée qui a fait une infidélité à Héra parce qu'elle a séduit Zeus. Enfin, c'est l'histoire, si vous voulez, sexuelle qui explique qu'une errance ou un exil a des causes très subjectives souvent et peut-être matricides. pourquoi est-ce qu'on se constitue étranger ou étrangère ? Peut-être y a-t-il une affaire à régler avec maman ? Enfin, ça, on y reviendra peut-être. Mais en tout cas, elles arrivent en Grèce et pour pouvoir s'intégrer, en tout cas être acceptées par la société grecque, il faut qu'elles se constituent comme suppliantes, c'est-à-dire apporter des rameaux d'olivier devant le temple de Zeus et se faire très modestes, très humbles, très vraiment coulantes pour ne pas heurter les mœurs de la cité. Mais ce que je voulais dire surtout, c'est que d'une part, elles sont officiantes donc du culte d'Héra et par conséquent, elles fondent le contrat social, le mariage, le foyer et le tonneau, le fameux tonneau qu'elles portent avec l'eau et le symbole de cette, ce culte familial. Mais d'autre part, elles sont des officiantes du culte de Déméter. Et à ce moment-là, on les voit verser du sang. Ce sont des Amazones, ce sont des violentes. Et c'est là que leur nature étrange, étrangère apparaît. Comme si les Grecs voulaient célébrer à travers cette image des étrangères quelque chose de spécifique au contrat social, à savoir qu'il faut s'arracher à une origine, à un clan, pour fonder une autre société. Et comme si dans chaque contrat, il y avait un élément de violence, y compris dans le mariage qui nous paraît être la chose la plus courante et la plus harmonieuse.
Alors cette violence, peut-être qu'on la retrouve d'une certaine manière avec les Juifs, peuple élu de Dieu, comme chacun sait, qui ont inscrit Ruth, qui était aussi l'étrangère, dans ce qui va être ensuite leur royauté, c'est-à-dire que Ruth est l'ancêtre de la grand-mère ou l'aïeul de David. Et Ruth, c'était une Moabite. Or, les Moabites, c'était un peuple qui n'était pas aimé du tout des Juifs, puisqu'ils ne les avaient pas aidés, ou des Hébreux, puisqu'ils ne les avaient pas aidés à leur sortie d'Égypte.
Oui, c'est quelque chose qui est extrêmement important à signaler, je crois, dans la conception des Juifs par rapport à l'étrangeté, parce qu'on se fait généralement une idée simpliste du rapport des Juifs par rapport à l'étranger. On pense que du moment où il s'agit d'un peuple élu, tous ceux qui ne le sont pas sont suspects. Et même si certains extrémismes ou certaines orthodoxies judaïques vont dans ce sens, je pense qu'il y a au fond de la religion juive une extrême compréhension et tolérance de l'étranger. Et la figure de Ruth vient signer justement cette compréhension, puisqu'elle vient, comme vous venez de le dire, de ce peuple moabite qui n'était pas accueillant, qui est donc considéré comme hostile et étranger. Et c'est elle qui, en devenant l'épouse de Booz, continue en quelque sorte la filiation.
Parce que peut-être on peut rappeler rapidement qu'elle se trouvait, elle était dans le royaume de Moab, voilà. Et arrive là un juif qui s'était sauvé de Judée au moment, parce qu'il y avait des difficultés. Qui avait, et donc lui, il vient avec ses fils, qui est eux-mêmes épouse de femmes, dont Ruth. Voilà. Et lui, enfin les mâles, meurent pour avoir commis ce crime d'être parti de Judée.
Exactement.
Et ensuite, Ruth, elle veut absolument être juive. Elle veut rentrer dans la loi juive.
Elle suit sa belle-mère qui est
Naomi. Elle retourne en Israël.
Parce qu'elle suit sa belle-mère. Il y a là une relation extrêmement intense entre ces deux femmes. Naomi est une femme extrêmement puissante, très croyante. Et il apparaît aussi que Ruth l'est. Donc il y a non seulement une affection entre elles, mais une adhésion au Dieu juif.
Et Ruth accepte d'entrer dans la loi d'Israël. Qui est d'avoir un enfant qui va être l'enfant du mari mort, d'une certaine manière.
Enfin, voilà, elle va pouvoir épouser un proche parent pour assurer la continuité de cette famille qui a perdu les deux fils.
Et Booz, qui a 80 ans, va donc
va
lui faire un enfant.
Le père de
va
cet
mourir
enfant.
De cette histoire.
Il va mourir de cette histoire, mais ce qui est très sympathique aussi, c'est que Noémie, avec beaucoup de malice, arrange la possibilité de Ruth de rencontrer Booz, et Booz lui aussi, d'ailleurs, est tout à fait conscient apparemment du fait qu'il s'agit d'une étrangère et en même temps d'une étrangère qui est très fidèle à la loi juive et par conséquent on peut lui faire confiance et il donne lieu à cet enfant qui est Obed, qui est l'intermédiaire et qui va permettre à la race de continuer et qui donc fait que Ruth devient l'ancêtre du roi David. Et ceci je crois est très intéressant parce que souvent dans certains textes ultérieurs on reproche à David cet ancêtre qui n'est pas tout à fait comme il faut. Et il répond qu'on ne peut pas être souverain s'il n'y a pas cette espèce d'écart quelque part. Et que la souveraineté doit supporter en son fond une reconnaissance de l'étrangeté. Je trouve ça d'une grande générosité et d'une grande spiritualité.
Oui, tout à fait. Alors, pour en venir maintenant au premier chrétien, comme on sait, Paul était à la fois juif de Tarse, il était citoyen romain, il était de langue maternelle grecque, et il a entrepris de faire un grand nombre de voyages pour convertir les gens au Christ, au christianisme. Alors, ce qui était tout à fait étonnant, c'est que Paul va ramasser dans un premier temps tous les étrangers, tous ceux qui étaient malheureux quelque part.
Il y a une image un peu négative de Paul comme quelqu'un qui a fondé l'Église et qui serait un peu à côté du grand mouvement spirituel. Ce serait en quelque sorte l'administrateur. Eh bien, quand on voit de près son aventure, on se rend compte qu'il s'agit d'un personnage extrêmement intéressant, qui est un très fin psychologue, est un très grand politicien. Il s'est rendu compte, en fait, qu'à cette époque-là, il y avait une population d'immigrés qui ressemble peut-être un peu au monde moderne. Des gens déracinés.
Beaucoup de femmes, d'ailleurs.
Beaucoup de femmes, des dissidents de la synagogue, des gens qui venaient des religions orientales et qui étaient dans un état de malaise à la fois économique, social, religieux et psychique, et qui ne demandaient qu'à être rassemblés. Et finalement, ce qu'il leur a proposé, ce n'est pas un voyage physique, celui-là, ils l'avaient, ils en souffraient, c'est un voyage spirituel. Faites le voyage entre le corps et l'esprit, et vous appartenez ainsi au Christ qui va vers son Père. Et là, ça sera notre Eucharistie, votre Eucharistie et notre communauté. Ouais. Donc, il a fondé une communauté spirituelle en prêchant les travailleurs immigrés.
C'est ça.
Ce qui est génial.
Qui d'ailleurs n'avait pas besoin, dites-vous, de vivre de d'aumône puisqu'il travaillait aussi. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas une fonction caritative particulière. C'est-à-dire que ce qu'il y avait, c'est surtout effectivement une communauté spirituelle. Alors, ce qui se passe, c'est qu'avec le Bas-Empire, en fin de compte, ces communautés deviennent de plus en plus importantes. Et il y avait cette espèce d'universalité qui déjà existait peut-être chez le peuple juif, qui était à la fois peuple élu, mais l'élection était ouverte à tout le monde. Là, on dit que le Christ est en chacun des hommes, c'est-à-dire que c'est complètement universel. Mais en même temps, tous ceux qui n'étaient pas chrétiens n'avaient pas droit à participer.
Évidemment. Oui, il y a eu un grand mouvement d'hospitalité chrétienne. On a construit des hôtels, on a créé la fonction de gens accueillant les migrants. Mais en même temps, ceux qui ne faisaient pas partie de la communauté chrétienne ont été considérés comme hérétiques, évidemment. Et c'était le début de ce grand mouvement qui va aboutir aux persécutions des hérétiques et à l'Inquisition. Donc, ce qu'il faudrait comprendre, c'est que ces grandes religions qui constituent notre héritage spirituel sont d'une part des remparts contre la xénophobie, mais d'autre part, dans leur extrémisme, elles deviennent extrêmement exclusives. Et donc, il faudrait qu'on cherche, me semble-t-il, en tout cas c'est mon point de vue personnel, des codes nouveaux, des morales nouvelles.
Et d'ailleurs, nous allons venir bien sûr au titre de votre livre, « Étrangers à nous-mêmes ». Il y a bien sûr quelque chose d'une inquiétante étrangeté que nous avons en nous.
Oui.
Et peut-être qu'on peut faire un lien entre cette espèce de voyage que proposait Paul entre le corps et l'esprit avec cette espèce de voyage intérieur que nous propose la psychanalyse.
Je pense qu'il y a une continuité entre notre civilisation à la fois judaïque, chrétienne, humaniste et le freudisme. C'est évident. Souvent, les gens ne le sentent pas et considèrent Freud comme un dissident ou quelqu'un qui est tout à fait en position de révolte, ce qui est vrai aussi. Mais ce que j'ai voulu marquer, c'est cette continuité. Et en effet, autant Paul fait une sorte de thérapie de l'exil en proposant l'Eucharistie et la communauté chrétienne, autant, par exemple, quelqu'un comme Montaigne nous explique comment notre moi est double, tantôt un, tantôt autre, et c'est à partir de ce dédoublement que nous pouvons comprendre les sauvages, ne pas les traiter de barbares, mais les assimiler à notre propre compréhension et dans notre propre tolérance. Autant Freud, dans ce même mouvement, voit ce qu'il appelle la double scène de la vie psychique, le conscient et l'inconscient, et loge l'étrangeté, non pas à l'extérieur, comme un bouc émissaire à persécuter, mais à l'intérieur de nous-mêmes, en disant en substance, si vous sentez à l'extérieur quelqu'un qui vous paraît dérangeant, eh bien demandez-vous qu'est-ce qui vous dérange à l'intérieur de vous-même et commencez par résoudre ce problème avant de vous attaquer à ceux de l'extérieur.
Donc l'étranger est universel.
Il est universel, mais il faut essayer vivre avec lui d'abord en nous-mêmes.
C'est-à-dire qu'il est en chacun de nous.
Il est en
puisque nous l'avons tous, normalement, devrait. En tout cas, c'est un livre que je recommande particulièrement parce que, enfin, vos livres d'habitude sont un peu difficiles à lire, il faut bien le dire. Mais celui-là, il est tout à fait accessible, bien écrit, agréable. Julia Kristeva, Étranger à nous-mêmes, un livre publié chez Fayard. Bonsoir à tous.
C'était Julia Kristeva pour son livre « Étranger à nous-mêmes » au micro d'Eliane Contini dans « Mise au point », une émission diffusée la première fois le 30 décembre 1988 sur France Culture.